I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Je vous avais prévenu, quand on a démarré ce podcast, il y a de fortes chances pour qu'il y soit régulièrement question de l'urgence climatique. Et pour cause, le sujet est chaque jour un peu plus au cœur de nos vies et de l'actualité. Par exemple, la semaine passée, le maire de Grande-Synthe, une ville du Nord, a décidé de porter plainte contre l'État pour contraindre la France à tenir les engagements pris lors de la COP21. Une initiative accueillie avec une certaine froideur, dirons-nous, par François de Rugy, l'actuel ministre de la Transition écologique.
Franchement, vous croyez que c'est dans les tribunaux qu'on va régler le problème du dérèglement climatique ?
Eh bien, pourquoi pas, tiens. Et si finalement, face à la lenteur de l'action politique, nous tenions là une possibilité de prendre en main ces enjeux qui bien souvent semblent hors de notre portée ? Et si la voie judiciaire n'était pas finalement le levier le plus efficace pour aller vite sur ce dossier pressant ? Est-ce qu'il faudra un jour un grand procès pour qu'enfin les choses s'accélèrent ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et la première étape de notre réflexion, le point de départ, c'est Grande-Synthe, donc, où le maire, l'écologiste Damien Carême, a tiré le coup de semonce. Je vais passer un petit coup de fil pour qu'il me raconte comment il en est venu à se dire qu'une action en justice était nécessaire.
J'assiste depuis quelques années maintenant à un État, un gouvernement qui ne prend aucune réelle décision en matière de lutte contre le changement climatique, malgré les réunions, la COP21 à Paris, la signature, etc. Je trouve qu'on est en deçà de ce qu'on devrait faire. Je suis dans une ville où on s'engage très fortement, nous, sur la lutte contre le changement climatique, que ce soit du 100% bio local dans les cantines scolaires, que ce soit sur l'énergie renouvelable, que ce soit sur l'efficacité énergétique des bâtiments de la ville, mais aussi des logements, que ce soit sur la mobilité, avec des primes vélo, avec des aménagements de pistes cyclables, avec le bus gratuit depuis le 1er septembre, dernier. Enfin, bref, on travaille sur tous les champs de cette lutte contre le changement climatique, mais c'est aussi une lutte contre notre modèle de développement. On a donc des ateliers de réparation de matériel plutôt que de jeter, donc toute une action en matière d'économie du partage et de lutte contre, enfin voilà, d'économie circulaire. Voilà, on fait beaucoup de choses et je me rends compte qu'en fait, ce qu'on fait nous, ça serait vous aller complètement à l'échec si l'État ne mettait pas en œuvre les engagements qu'il prend. Et on voit bien, année après année, que les choses s'empirent. On a vu le dernier rapport du GIEC, on a vu les émissions de CO2 en France ces deux dernières années qui n'ont cessé d'augmenter. Et ben, à un moment, je me dis, ras-le-bol, donc oui, la ville de Grande-Synthe porte plainte parce qu'elle est menacée particulièrement. On est en territoire de polder chez nous, on est menacé par les inondations, par la submersion marine, et que je veux... Ben, voilà, il y a des responsables à ça, les responsables sont aussi des États. Les citoyens s'engagent, les villes s'engagent et l'État est défaillant. Donc c'est pour ça que je porte plainte pour faire bouger les choses. C'est symbolique, mais ça n'est pas que symbolique. C'est aussi je veux des actes maintenant. Les intentions, les belles déclarations ne suffisent plus. Je veux vraiment des actes et rapides.
Et justement, vous le disiez vous-même, pour l'instant c'est symbolique, mais il y a quand même une idée d'aller un peu plus loin, parce que je crois, si j'ai bien compris, pour l'instant, on est dans la première étape, c'est-à-dire que là, c'est un recours gracieux. Donc, en gros, l'État,
c'est la procédure.
C'est ça, l'État, ouais. L'État a deux mois pour répondre à votre ouais. requête. Mais s'il n'y a pas de réponse ouais. de la part de l'État,
on va en justice.
C'est
la procédure normale qu'on suit. C'est effectivement d'abord un recours gracieux que j'ai adressé au ministre et j'en ai envoyé une copie au Premier ministre et au Président de la République. J'ai donc deux mois pour que l'État me réponde et pas simplement sur me dire on va mettre en place un conseil scientifique, un conseil machin ou une commission ad hoc. Je veux des actes, donc des actions avec des échéances pour répondre à cette urgence climatique. Voilà, donc et j'attends la réponse au bout de deux mois. Et si au bout de deux mois, un, je ou je n'ai pas de réponse, ou j'ai des réponses insatisfaisantes, je mènerai l'action en justice, donc devant les tribunaux.
Est-ce que le recours juridique, le passage par la justice, n'est pas finalement le moyen le plus rapide de faire bouger les choses?
Si, aujourd'hui je le constate. D'ailleurs, quand François de Rugy intervient à la radio pour balayer d'un revers de main mon recours en disant que c'est pas la justice de son mêlée, bah si. Et si la France n'avait pas été condamnée par la Cour de justice européenne en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, l'État français n'aurait encore rien fait. Or, on est un des plus mauvais élèves de l'Europe à ce sujet-là. Et c'est bien parce que la Cour européenne de justice a condamné la France et va la condamner à de fortes amendes financières que l'État français a décidé de se bouger. Donc voilà, s'il faut en arriver à ces extrémités parce que on n'a pas le courage politique, on n'a pas la volonté de changer radicalement les choses, eh ben on passera par la justice.
Alors il faut savoir qu'en France, ce n'est pas la seule initiative du genre. En parallèle, d'autres communes, dont Grande-Synthe, alliées à des ONG, se sont tournées vers Total pour contraindre l'entreprise à faire un premier pas vers une amélioration de son comportement vis-à-vis de l'environnement, tout simplement en respectant une nouvelle obligation légale qui est assez peu connue, le devoir de vigilance, sous peine là encore d'en faire appel à la justice. Ils se sont notamment inspirés de procédures de ce type lancées contre des multinationales par des villes américaines, et je suis donc allé voir l'avocat qui représente ces communes françaises et ces associations, Sébastien Mabil, pour qui nous explique tout ça.
En France, on dispose d'un texte qui est tout à fait innovant, puisque c'est la première loi de ce type dans le monde à être adoptée. C'est la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance qui impose aux grandes entreprises de plus de 10 000 salariés d'établir un plan de vigilance dans lequel elles doivent identifier les risques découlant de leurs activités sur les droits humains, la sécurité, la santé des travailleurs et l'environnement. Et en fonction de ces risques, prévoir des mécanismes d'alerte, etc., et des actions adaptées destinées à en réduire les conséquences et à les prévenir. Voilà. Donc nous avons privilégié ce fondement juridique qui, contrairement aux actions engagées par les villes américaines, ne vise pas non plus à faire les poches de Total, plutôt à lui demander d'être cohérent par rapport à son engagement rappelé à plusieurs reprises par son PDG Patrick Pouyanné de se conformer à l'accord de Paris et d'être cohérent en prenant des actions adaptées qui viseraient à aligner la stratégie de l'entreprise Total sur cet objectif universellement admis de limiter le réchauffement à 1,5 et de rester nettement en dessous de 2 degrés tel qu'il ressort de l'article 2 de l'accord de Paris.
Et c'est justement autour de votre travail sur le devoir de vigilance que vous avez constaté que du côté de Total, on n'était pas, pour ainsi dire, dans les clous.
On a d'abord été très surpris de voir que le risque climatique n'est pas même évoqué comme étant un risque possible lié à l'environnement découlant des activités de Total, qui pourtant, par ses activités de...
Ça paraît tomber sous le sens un peu.
Exploitation, raffinage, exploration, transport, distribution d'énergie fossile, est un parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Pourtant, Total identifie clairement le risque climatique comme un risque pesant sur la société, hein, en termes à la fois d'évolution défavorable de la réglementation. On le voit en France, c'est de l'actualité avec l'augmentation de la taxe carbone. Et également, Total vise explicitement les risques de contentieux dont il fait l'objet de la part de certaines collectivités, notamment aux États-Unis, qui lui demandent de réparer ou de contribuer en tout cas au coût d'adaptation des changements climatiques. Donc on ne peut pas considérer, on considère que c'est totalement incohérent de considérer que le changement climatique est un risque pesant sur la société elle-même, Total, quand les activités de la société ne font pas peser ce risque auprès des tiers. Voilà. Donc c'est cette incohérence qu'on a voulu mettre en avant, et cette incohérence qu'on souhaiterait voir corrigée, si besoin, en saisissant le juge.
Quelle a été la réponse de Total à ce courrier qui a été rendu public il y a quelques semaines maintenant ?
Aucune réponse pour le moment.
Vous espérez une réponse ou vous pensez que ça va aller jusqu'à devant la justice ?
On espère une réponse, parce que le fait de mener une action en justice n'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est bien de dialoguer avec Total, également de leur dire que la transition énergétique auquel on doit faire face ne pourra pas se faire sans le soutien et l'adhésion des grandes entreprises de l'énergie, en premier lieu Total. C'est-à-dire que nous avons besoin de leurs compétences en matière de recherche et développement, de leurs compétences de leurs investissements. Total Solar est devenu aujourd'hui le premier opérateur en termes de photovoltaïque en France. Donc ils font des choses. Ils font des choses, mais ils le font pas assez vite et pas assez massivement. Aujourd'hui, enfin l'année dernière, Total investissait encore plus d'un milliard d'euros dans la recherche et l'exploration de nouveaux gisements pétroliers et gaziers qui ne seront exploités qu'à l'horizon 2040-2050. Alors, à cet horizon-là, 2050, le GIEC nous dit qu'il faut qu'on atteigne la neutralité carbone. Donc, il y a un vrai problème de cohérence. Ce que nous demandons à Total, c'est qu'il réoriente massivement ses investissements en faveur de la transition énergétique, ce soit en matière de stockage d'énergie, en termes de développement des énergies renouvelables, éolien, photovoltaïque, hydrogène ou autre, et que Total cesse, en tout cas s'engage vers un désinvestissement des énergies fossiles, ce qu'il a commencé à faire pour le charbon, mais pour le seul charbon, alors qu'il continue à investir massivement dans le pétrole et surtout dans le gaz.
Est-ce que là, je vous pose une question un peu théorique, on va dire, mais est-ce que la voie judiciaire est la voie la plus rapide pour faire bouger les choses en termes d'urgence climatique ? Parce qu'on voit concrètement que les politiques gouvernementales mettent beaucoup de temps à s'installer, voire ne s'installent pas du tout. Est-ce que justement c'est par le droit qu'on peut faire bouger les lignes plus rapidement ?
Alors oui, c'est par le droit. On l'a vu, le risque judiciaire en tant que tel peut très largement modifier le comportement. On l'a vu dans les dossiers pour l'amiante qui n'ont pas été jugés, mais le fait qu'il y a un risque finalement qui expose les dirigeants de la société ou la société elle-même permet de faire évoluer des comportements. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que aussi de plus en plus, les citoyens, les associations recourent à la justice en matière climatique parce que ils se rendent compte que les parlementaires, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif est lui beaucoup plus exposé à la pression de lobbies qui sont très puissants en matière de carbone, en matière d'énergie, en matière d'activité économique, et que finalement le juge va avoir une vision beaucoup plus indépendante, impartiale de ce problème-là, qui par ailleurs est totalement lié aujourd'hui à des problèmes de protection des droits de l'homme qui sont connus du juge. C'est-à-dire que quand on parle de risque lié au changement climatique, c'est pas uniquement un risque sur la biodiversité, sur les espèces ou sur les océans, mais c'est aussi un risque en matière d'atteinte à la propriété, en matière de droit à un environnement sain, c'est-à-dire un ensemble de droits subjectifs qui sont conférés aux individus et qui relèvent de la catégorie des droits humains. Voilà, et donc c'est de plus en plus, on voit aujourd'hui s'opérer une jonction entre le contentieux climatique et le contentieux des droits de l'homme, pour lequel le juge a vraiment toute sa place.
Alors, ouvrons un peu le champ de notre réflexion, parce qu'au-delà des dossiers français, c'est très logiquement le monde entier qui est concerné par ces questions climatiques. Alors peut-être y aurait-il quelque chose à inventer du côté du droit international. Mais des juristes planchent déjà sur la question, notamment ceux qui ont participé l'an dernier à La Haye, aux Pays-Bas, au Tribunal international civique contre Monsanto, le fabricant du tristement célèbre désherbant Roundup. La documentariste française Marie-Monique Robin, très engagée sur ce dossier, a parrainé ce tribunal symbolique qu'elle a immortalisé dans un film, le Roundup face à ses juges. Je suis allé à sa rencontre en région parisienne pour qu'elle nous en dise plus sur une des idées fortes de ce procès de La Haye, la possibilité de créer un nouveau crime, le crime d'écocide.
Le crime d'écocide, qui pour l'instant n'est pas reconnu par le droit international, est un outil absolument indispensable. Il y a beaucoup de juristes qui travaillent là-dessus. Alors l'écocide, c'est le crime contre les écosystèmes. Hein. Et donc l'idée, c'est que, vous savez, au XXe siècle, il y a eu... c'est les grands criminels de sang, avec notamment sang S-A-N-G, évidemment, hein, avec notamment l'extermination programmée des Juifs d'Europe, qui a été l'un des grandes tragédies de l'humanité. Quand le tribunal de Nuremberg s'est réuni, qu'est-ce qu'on a fait ? On a inventé un nouveau crime qui n'existait pas jusqu'alors. Qui était le crime contre l'humanité. Donc nous disons aujourd'hui, je veux dire par là, ceux qui ont organisé ce tribunal international de Monsanto, Corinne Lepage, Olivier Duscuter, qui sont des juristes, Vandana Shiva, enfin, nous disons au XXIe siècle, il y a aussi des grands défis qui auront un impact considérable sur les droits humains. Il faut inventer un nouvel outil qui serait l'écocide et qui permettrait de poursuivre au pénal les dirigeants des multinationales qui en sont responsables. Parce que pour l'instant, on ne peut pas. Tant qu'on ne le fera pas, eh bien, que fait Monsanto ? Ben, il provisionne des sommes pour faire face à ces éventuels procès au civil. Et puis, ils continuent. Hein, ils ont fait ça pendant toute leur histoire. Donc, ça ne suffit pas. Donc, voilà. Alors, le tribunal international de Monsanto, finalement, a eu beaucoup d'impact, hein, parce qu'il a contribué, effectivement, à la définition de ce nouveau crime qu'on voudrait voir émerger, qui est donc le crime d'écocide. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait un amendement qui soit adopté par les Nations Unies, au traité de Rome, au statut de Rome, qui fonde la Cour pénale internationale de la Haye, qui, pour l'instant, ne reconnaît que 4 crimes. Crime contre l'humanité, crime d'agression, crime de guerre, crime de génocide. Et l'idée, ce serait qu'il y ait un 5e crime, le crime d'écocide en temps de paix, hein, qui permette donc de criminaliser véritablement les comportements qui mettent en danger les écosystèmes.
Qu'est-ce qui, à part cet ajout au statut de Rome, qui là est la partie, le volet technique, on va dire, qu'est-ce qui manque dans la volonté politique pour qu'on en arrive à la création de ce droit ?
Et l'une des options, c'est que des États membres de l'ONU, eh bien, saisissent le secrétaire général des Nations Unies et disent « Nous voulons un amendement pour faire reconnaître le crime d'écocide. » Après, évidemment, il faut le définir. Enfin, bon, ça, c'est... Ce travail est fait. Hein. Le mouvement End Ecocide on Earth, arrêtons l'écocide sur la planète. Il y a plein de juristes qui ont travaillé ces questions. D'ailleurs, plusieurs sont venus témoigner au tribunal international de la Haye. Donc voilà. Alors, l'idéal, c'est qu'il y ait plusieurs pays, parce que le Costa Rica, par exemple, avait déclaré qu'il était prêt à le faire, mais je sais que ceux qui travaillent dans cette initiative essaient d'en convaincre le maximum. Quoi. Voilà. Voilà ce qui manque pour l'instant. Alors, au-delà de ça, si on arrivait à faire reconnaître cet outil juridique, ça doit s'accompagner évidemment d'une prise de conscience, parce que c'est ça aussi le but, hein, c'est de se dire, voilà, tous ceux qui portent plainte en ce moment, voilà, alors comme le maire de Grand-Synthe, il y a une valeur symbolique aussi, et de dire à l'opinion publique, il y a des crimes qui sont commis, qui ne sont pas poursuivis, en tout cas pas suffisamment. On sait à quel point c'est difficile de poursuivre ceux qui détruisent l'environnement et puis ceux qui contribuent au réchauffement climatique, par exemple, hein, ou qui détruisent la biodiversité. Donc, on manque totalement d'outils, quoi. Donc, il faut que, y compris bon, les citoyens, les élus, comprennent que c'est un crime, hein, et que ce crime, en plus, a des conséquences terribles, parce que ce crime détruit les conditions mêmes de la vie sur la planète. Quoi.
Mais est-ce que les gouvernements n'ont pas peur de ce droit, de peur qu'il soit utilisé contre eux, tout simplement ? Qu'on leur retourne l'usage de ce droit en les assignant à leur tour devant un tribunal ?
Alors, ça, c'était une question qui a été abordée lors du tribunal international de la Haye. D'ailleurs, dans l'avis juridique qu'ont rendu les juges, ils ont souligné à quel point, en fait, les États, déjà, ne respectaient pas eux-mêmes des conventions internationales qu'ils ont signées. Et ils ont aussi noté, les juges, qu'en matière environnementale, enfin tout ce qui concerne les droits humains, en fait, les entreprises qui sont coupables de violation de ces droits sont protégées beaucoup plus que les citoyens ne le sont. Et notamment protégées par les accords de libre-échange, les accords commerciaux. Donc là, il y a un vrai, vrai problème. Et l'une des recommandations des juges à la Haye, c'était de dire il faut absolument... que les gouvernements, déjà, les États appliquent les conventions qu'ils ont signées et protègent d'abord les droits des citoyens, aussi bien le droit à l'alimentation, les droits fondamentaux reconnus par différents textes qu'ils ont signés. Il faut qu'on sorte de ce système où, finalement, c'est toujours à la société de payer pour les dégâts qui ont été commis par des multinationales. Là, pour l'instant, c'est pareil, on est très, tout à fait démunis. Hein. C'est intéressant de voir que un peu partout, en ce moment, on se saisit de la justice. Comme le vient de le faire, bon, encore une fois, le maire de Grand-Synthe, mais aussi un agriculteur, vous avez peut-être vu, péruvien, qui a porté plainte contre l'Allemagne, enfin une entreprise allemande qui exploite du charbon, hein, et qui a dit, ben voilà, moi je sais que par votre activité du charbon, c'est une très entreprise allemande, vous avez contribué à 0,0% des gaz à effet de serre depuis que vous exercez votre activité, c'est-à-dire depuis le 19e siècle. Eh bien moi, je suis menacé par le glacier qui est en train de fondre du côté de Lima, enfin voilà, et bientôt il n'y aura plus d'eau, enfin, et ça m'affecte, ça affecte ma communauté, donc je porte plainte. Et ça a été déclaré recevable en Allemagne. Hein. On sent bien que il y a plein d'initiatives de ce genre qui ont lieu, ou des procès citoyens, parce que, évidemment, Monsanto, on en a beaucoup parlé, parce que, comme c'était des vrais juges, c'était voilà, particulier, mais des procès citoyens qui se montent pour dénoncer ce qui est en train de se passer, et puis voir comment on va faire pour trouver des solutions, quoi.
Est-ce que l'empilement de, comme ça, de, d'initiatives locales ou nationales peut aboutir, selon vous, à une prise de conscience internationale et donc à une action internationale?
En tout cas, prise de conscience, oui. Moi, j'étais encore très, très désespéré il y a peu de temps, en me disant ça bouge pas beaucoup. Et voilà, et cet été, parce que je trouve qu'il y a eu cet été, d'un côté, bon, les signes évidents de ce dérèglement climatique qui étaient visibles pour tout le monde, quoi. La démission de Nicolas Hulot aussi, je pense, a eu un impact. Donc, on voyait que là, la prise de conscience s'élargissait. Alors après, c'est pas encore suffisant, à mon avis. Hein. Et la question suivante, c'est évidemment, comment on fait pour stopper? Donc, tout est bon, hein. Franchement, voilà, tout est bon. Mais c'est vrai qu'au niveau juridique, on manque d'outils. Tous ceux qui travaillent sur ces questions le disent. Hein.
Et, même dans le droit français, tout simplement?
Oui, le droit français. Puis, de toute façon, le droit français, dans ces questions, il est très proche du droit communautaire. Enfin, qu'on retrouve dans... Voilà. On voit des juges qui sont totalement... démunis, ils n'ont pas du tout les compétences pour ça. Donc ça, c'est une chose très importante à souligner. On a besoin de formation, non seulement des juges et des personnels juridiques, à ces questions complexes de la pollution environnementale, de son impact, etc. Enfin, il y a plein de leviers à activer, quoi.
Et je vous invite à lire pour aller plus loin et voir comment la justice peut permettre de faire bouger les lignes le livre de Marie-Monique Robin qui porte le même nom que son film, Le Roundup face à ses juges, un livre qui vient de recevoir d'ailleurs le prix littéraire des droits de l'homme. Merci à nos intervenants, Damien Carême, Sébastien Mabille et Marie-Monique Robin donc pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.